Bonjour à tous, le sommaire de ce jeudi midi. Les membres de la Cour de cassation renforcent leur capacité au centre de formation continue de l'Institut national de formation judiciaire. Objectif, réfléchir sur la loi organique portant sur l'avant-projet de loi du règlement intérieur de la Cour de cassation afin de permettre le bon fonctionnement de cette institution. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de concert avec le Fonds des Nations Unies pour la population, le réseau de la Renaissance africaine et la diaspora a organisé précisément mardi dernier à Abidjan une campagne régionale de mobilisation. Objectif à mener, la société a donné un carton rouge à toutes les formes de violence basées sur le genre. Les échos dans cette édition. Dans l'actualité internationale présidentielle au Sénégal, la justice réintègre l'opposant Ousmane Sonko sur la liste et ouvre la voie à sa candidature. En fin d'édition, Johan Chimonsi, directeur du Hub Média Régional et porte-parole francophone du département d'État américain, sera avec Ghislain Koulibaly. Ils reviendront sur la contribution financière des États-Unis à l'endroit des pays vulnérables et sur d'autres programmes dans le domaine de l'agriculture, de la sécurité alimentaire face aux changement climatique. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Les membres de la Cour de cassation ont renforcé leur capacité les 11 et 12 décembre 2023 au cours d'un atelier de formation au Centre de formation continue de l'Institut national de formation judiciaire avec pour objectif de réfléchir sur la loi organique portant sur l'avant-projet de loi du règlement intérieur de la Cour en vue de son adoption afin de permettre le bon fonctionnement bien entendu de cette institution. On en parle avec Jean-Michel.
Au terme de cet atelier de réflexion, Youa Koffi, président de la Cour de cassation, est revenu sur l'objet du renforcement des capacités des membres de la Cour de cassation.
Il n'y avait pas de règlement intérieur depuis que la Cour de cassation est devenue une institution depuis 3 ans. Donc il fallait mettre en œuvre ce règlement intérieur qui est pratiquement le point de départ des activités effectives de la Cour de cassation. Non pas qu'elle ne fonctionnait pas, mais elle ne fonctionnait pas comme cela devait être. C'est pour cette raison que le règlement intérieur est un élément important. Et le règlement intérieur s'élabore et s'adopte en Assemblée Générale.
Sur les actions prochaines de la Cour de cassation pour son fonctionnement après l'adoption par l'Assemblée nationale de l'avant-projet de loi sur le règlement intérieur de cette institution, Youa Koffi.
Il s'agit de faire en sorte que les dossiers puissent être rapidement soldés par une décision de justice au niveau de la Cour de cassation. Il faut renforcer le nombre d'audiences que la Cour de cassation tient par mois. Jusqu'à présent, c'est une seule audience par mois. Nous allons passer à 2. Ensuite, il y aura une multiplication des formations de jugement. Il y avait seulement 2 formations. Nous allons passer à 7 pour multiplier la sortie des dossiers. Nous aurons la chambre pénale, la chambre sociale et la chambre présidentielle.
En poste depuis 3 mois, en tant que président de la Cour de cassation, Youa Koffi vient de franchir une nouvelle étape pour renforcer son institution avec l'avant-projet du règlement intérieur.
Élection pour la présidence du PDCIRD à présent, le nom et l'image du professeur Maurice Kakou Gikayoué ne doivent pas être associés au processus électoral. C'est la mise en garde faite hier par son conseil et son porte-parole au cours d'une conférence de presse pour dénoncer, selon eux, l'injustice faite à leurs clients. Junior Cardin pour des précisions.
À l'entame de cette conférence de presse, Kouna Marius, le porte-parole du professeur Maurice Kakou-Dikaoué, a demandé aux Ivoiriens de retenir une seule chose.
Le candidat Maurice Kakou-Dikaoué a été éliminé. C'est ça qu'il faut retenir. Et il a pris acte de son élimination injuste et non fondée.
Cette injustice, au dire du conseil de Maurice Kakou-Dikaoué, les autorise à mettre en garde ceux qui gèrent le processus électoral sur un état de fait. Maître Koto Attabi.
Parce qu'il nous revient de sources bien introduites et de façon récurrente que le nom d'élimination l'image du professeur Maurice Kakou-Dikaoué serait déjà inscrite sur les bulletins de vote. Nous les mettons en garde que si le fond, malgré la position du professeur Maurice Kakou-Dikaoué, nous serons donc obligés de nous pouvoir en justice, ce qu'on ne voulait pas faire, pour préserver son image et son nom. Ça, c'est une mise en garde et nous allons la formaliser dès ce soir même.
Le porte-parole Kouna Marius a énuméré un certain nombre de décisions qui, selon lui, montrent la preuve de certaines manigances énormes. Nous retenons celle-ci.
On ne peut pas dire qu'on fait un processus électoral. On écrit les règles de départ. On dit qu'on recense les candidatures. On passe par-ci, on passe par-là. Et à la fin, on dit nous allons afficher la liste définitive des candidats. Et puis, on est assis là, nous tous. On a ouvert la campagne hier à minuit jusqu'à aujourd'hui. Qui peut me dire s'il a vu une liste officielle des candidats? On ouvre une campagne électorale sans connaître les candidats. Vous avez déjà vu ça quelque part?
Il a donc affirmé qu'effectivement, il a été signifié oralement au professeur Maurice Kakou-Dikaoué qu'il était éliminé avec pour prétexte le contrôle judiciaire. Toutefois, Kouna Marius rassure que Dikaoué demeure PDCI-RDA.
Junior Carnet. Le contrôle judiciaire ne conduit pas en prison, mais permet à la justice d'avoir un regard sur une personne suspectée d'infraction en attendant l'aboutissement de ses enquêtes contre elle, explique un juriste et analyste politique en lien avec celui sous lequel était récemment Maurice Kakou-Dikaoué, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, et Pascal Afingessan, président du FPI. Cependant, le contrôle judiciaire ne discrimine pas le concerné quant aux privilèges accordés à tous les citoyens par la loi. Un soutien ici, Geoffroy Julien, au quoi je pas Francis Cassi.
Lorsque un mis en cause dans la commission d'une infraction est devant le juge d'instruction, il pense que le mis en cause a vraiment commis l'infraction, mais il lui faut poursuivre les enquêtes et en attendant, il met donc le mis en cause en liberté. Cependant, il prend des mesures restrictives quant à un certain nombre de libertés. Par exemple, il lui dit, tu ne peux plus voyager sans mon autorisation, tu ne peux plus aller dans tel lieu sans mon autorisation, tu ne peux pas exercer certaines activités sans mon autorisation et tu dois chaque jour ou bien chaque semaine, ou bien chaque mois, te présenter à mes services pour que je sache que tu es là. C'est ce qu'on appelle le contrôle judiciaire.
Parlons maintenant des conséquences du contrôle judiciaire.
Il faut dire que le contrôle judiciaire ne prive pas un individu de ses droits civils, civiques et politiques. C'est-à-dire que quand vous êtes sous contrôle judiciaire, vous n'avez pas encore été jugé. La procédure est pendante. Donc, vous êtes toujours présumé être innocent. Donc, on ne peut pas vous retirer votre droit en tant qu'électeur, votre droit pour être candidat à une élection. La preuve, M. Dikaoué était sous contrôle judiciaire. Mais il était bel et bien candidat aux différentes élections au nom du PDCI-RDA. Seule une décision finale, définitive de justice peut priver un individu de ses droits civiques et politiques. C'est pourquoi je n'ai pas trop bien compris l'attitude du PDCI qui aurait rejeté la candidature de M. Dikaoué au motif qu'il était sous contrôle judiciaire. Heureusement que d'autres communiqués ultérieurs venant de la direction du PDCI ont infirmé cette information.
Voilà, le juriste et analyste politique ivoirien Geoffroy Julien Kouaou était avec Francis Cassi. Autre chose dans ce journal, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de concert avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, a organisé mardi dernier ici même à Abidjan une campagne régionale de mobilisation pour amener la société à donner un carton rouge à toutes les formes de violence basées sur le genre. Compte rendu signé Mata Touré.
Présente déclaration baptisée, c'est sanctionner les actes de VBG et pratiques équivalentes.
Un top départ pour Carton Rouge qui est une manifestation de solidarité entre les acteurs, les pays, pour tout ce qui concerne les violences basées sur le genre. Une problématique mondiale qui interpelle la conscience de tous, a rappelé le Premier ministre Robert Begré-Mambé par la voix de la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto.
Les initiatives comme la campagne Carton Rouge contribue à créer des passerelles de conjugaison d'efforts entre les principales parties prenantes afin de mieux coordonner les interventions.
Cette campagne a réuni des pays de la sous-région tels que le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana ou le Bénin, avec comme invité spécial la RDC, Naseneba Touré, la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.
Les réalités ne nous donnent aucun autre choix que de sanctionner solidairement les violences basées sur le genre. Alors que la moyenne mondiale est de 30%, elles sont 40% en Afrique de l'Ouest et 65% en Afrique centrale. Nos sœurs qui ont subi au moins une fois des violences basées sur le genre.
Portant sur le thème engagement et action pour la mise en œuvre d'une stratégie régionale de tolérance zéro au VBG d'ici 2030, cette campagne va se dérouler sur une année avec pour point culminant la cérémonie de lancement de la 34e Coupe d'Afrique des Nations de football prévue le 13 janvier 2024.
L'Organisation internationale du travail lance la deuxième phase du projet ACEL, l'Africa, ce qui signifie accélérer l'action pour l'élimination du travail des enfants dans les chaîne d'approvisionnement. En Afrique, le travail des enfants dans la cacaoculture et l'extraction minière artisanale sont au menu de ce projet. Les échos avec Junior Carnet.
Le projet ACEL Africa, dans son ensemble, concerne 6 pays en Afrique. Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Nigeria et Ouganda. Au dire du directeur pays du BIT, Frédéric Laperle, à l'ouverture de l'atelier.
L'objectif général poursuivi par la phase 2 du projet ACEL Africa est d'accélérer l'élimination du travail des enfants en Afrique par le biais d'actions ciblées dans certaines chaînes d'approvisionnement. En Côte d'Ivoire, le projet contribuera à éliminer le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du cacao et de l'or. Il permettra d'aider le pays à faire face aux défis du travail des enfants dans l'exploitation minière artisanale et dans la cacaoculture.
L'État ivoirien, pour sa part, a salué le lancement de la deuxième phase du projet ACEL, vu les défis qui se dressent face à la lutte contre le travail des enfants. Ngetia Martin, directeur de la lutte contre le travail des enfants au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale.
L'État a fixé donc le cadre, a fixé donc les orientations. Nous connaissons donc nos défis, nos contraintes, mais il faut vraiment qu'on trouve des solutions et c'est ensemble que nous allons pouvoir vraiment réussir ce pari. Et donc, le projet va nous être présenté et il nous appartient d'orienter les porteurs vers nos centres d'intérêt, vers les réponses que nous attendons pour nous aider à mieux réussir le pari de l'éradication du travail des enfants. Faire en sorte que ACEL 2 soit totalement aligné avec les directives nationales et avec vraiment nos attentes et je voudrais vraiment compter sur vos contributions.
35 participants issus des structures gouvernementales, des organisations d'employeurs et des organisations de travailleurs ont pris part à cette rencontre dont les résultats des réflexions sont attendus par le gouvernement.
Sécurité à présent, 21 individus interpellés, déférés devant les tribunaux pour des faits de criminalité, plusieurs armes de guerre saisies dans la préfecture de police de Yamoussoukro, ainsi que 57 personnes tuées en l'espace de 11 mois et demi. Du fait de l'incivisme routier, ce sont entre autres quelques résultats enregistrés par la préfecture de police dans le cadre de l'opération Vacances Sécurisées. Débuté en juin 2023, opération qui a pris fin mardi dernier pour s'émuer en opération Épervier 9. On en parle avec Emilia O.
Le préfet de police de Yamoussoukro, le commissaire divisionnaire major Binaté Youssouf, a dressé à l'occasion le bilan de l'opération Vacances Sécurisées débutée en juin dernier.
Nous avons 21 individus interpellés et déférés pour des faits de criminalité. Nous avons saisi des armes de guerre, des kalachnikovs, des fusils calibre 12, des machettes, des couteaux, des paires de ciseaux. 52 personnes impliquées dans la consommation et dans la vente de la drogue ont été déférées par le parquet de Toumoli. 100 kg de cannabis, 20 g d'héroïne, 16 g de cocaïne et 3200 comprimés de tramadol saisis.
Concernant la lutte contre les incivilités et l'incivisme routier, des efforts restent à faire au regard de l'ampleur de la situation, déplore Binaté Youssouf.
De janvier jusqu'à maintenant, nous avons dénombré 914 accidents. Nombre de véhicules impliqués, 1180. Nombre de blessés, 1114. Malheureusement, 57 morts pour la seule ville de Yamoussoukro. Nous avons déféré 85 indisciplinés, c'est-à-dire ceux qui causent ces accidents. Et ces accidents sont causés par le non-respect du code de la route.
En procédant au lancement de l'opération Épervier 9, opération de sécurisation des personnes et des biens, le préfet de région, Koulibaly Gando, a invité la population à davantage de coopération avec les forces de sécurité.
Les résultats obtenus sont aussi durs. à vous, chère population. Et je voudrais vous demander de faire encore plus, de soutenir vos forces pour qu'elles continuent de vous protéger efficacement.
La répression va monter d'un cran, a d'ailleurs prévenu le préfet de police, Binaté Youssouf. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Oui, Émile Yao, l'objectif de cette même opération à San Pedro est de maintenir la quiétude et la sécurité publique en cette période de fin d'année précisément. Des détails avec Benson Kofi, c'est notre correspondant dans le Bassa Sandra.
L'opération IPRV9 avec pour acteurs la police nationale, la gendarmerie nationale et le bataillon de sécurisation du sud-ouest est une opération qui est mise en œuvre pour le bien-être des populations selon le commissaire principal de police Kwame Henri Michel, préfet de police adjoint de San Pedro.
L'opération IPRV9 vise pendant ces fêtes de fin d'année à sécuriser les établissements financiers et bancaires ainsi que les commerces, détruire les sites servant de fumoir, occuper rationnellement le terrain par des patrouilles suivies de rafles et agit en ayant en esprit la menace terroriste. Chers collaborateurs, je vous engage au professionnalisme et à la culture du bon résultat, à faire preuve de courtoisie, de rigueur, à travailler dans le respect des droits humains et renforcer la collaboration police-population.
Pour Kone Soumaïla, sous-préfet de San Pedro, la sécurisation de la CAN est un défi à relever.
San Pedro accueille la CAN 2023. Ici constitue un défi pour nous et je voudrais ainsi mettre en mission toutes les forces afin qu'elles puissent assurer la sécurité des biens et des personnes.
L'opération IPRV9 intervient à la suite de l'opération Vacances Sécurisées 8 dont quelques résultats donnent 31 fumoirs détruits, la saisie de 150 sachets de boulettes de cannabis, 25 sachets d'héroïne, environ 900 kg de médicaments de qualité inférieure falsifiés, 1084 personnes raflées sur le signal de la police technique et scientifique. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, le tribunal de grande instance de Dakar a ordonné aujourd'hui, jeudi, la réintégration sur la liste électorale de l'opposant Ousmane Sonko, alors que la justice avait décidé au départ de le rayer de la liste. Ce retour en arrière du tribunal de Dakar pourrait relancer la candidature de l'opposant emprisonné à la présidentielle de février 2024. Cette décision remet dans la course l'opposant qui avait été radié des listes à la suite d'une condamnation à 2 ans de prison en juin dans une affaire de mœurs. Ousmane Sonko a désormais jusqu'au 26 décembre pour déposer sa candidature et recueillir ses parrainages. Sans transition, à présent, l'invité de la rédaction, Johan Chimoncé, directeur du Hub Média Régional et porte-parole francophone du département d'État américain, est avec Ghislain Koulibaly. Reviennent sur la contribution financière des États-Unis à l'endroit des pays vulnérables et sur d'autres programmes dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire face au changement climatique. Entretien.
Bonjour, Johan Schmonsis.
Bonjour, Gisèle.
Alors, vous êtes le point focal francophone au département d'État américain. Et puis, on sait que cette 28e conférence des partis sur le changement climatique a une forte contribution de plusieurs pays dans le monde, dont les États-Unis. Votre regard?
Comme toutes les COP, pour nous, c'est un grand événement. Le gouvernement américain tient 4 objectifs principaux. Pour une chose, arriver à un consensus sur le bilan mondial, on a déjà parlé de ça avant la COP, mettre le point sur la résilience, limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius, mettre en marche des ressources financières pour faire face aux défis, et puis finalement, mettre en avant le leadership américain au sein de ces...
Et vous parlez de discussions, bien évidemment, et qu'est-ce qui émerge déjà de ces discussions-là et qui intéresse surtout les États-Unis?
Pour une chose, on est très optimiste on est très content que au premier jour de la COP, plusieurs donateurs des pays développés et en train de développement ont annoncé un total de 700 millions de dollars pour faire face aux pertes et aux dommages. Et ça, c'est un chiffre très encourageant. Aussi, la coopération du gouvernement des Émirats pour mettre en contexte la limitation des énergies fossiles dans l'avenir. Tout ça, c'est très encourageant.
Mais le problème souvent, c'est que des décisions se prennent pendant les COP, des promesses se font, des engagements sont signés, des signatures se font, mais souvent, ce n'est pas matérialisé. Hein, et là, ça a été vraiment bien accueilli, hein, l'opérationnalisation de ce fonds sur les pertes et dommages. Mais est-ce que vous pouvez nous rassurer, hein, que partant de cette COP-là, ce sont des fonds qui seront effectifs et qui seront matérialisés pour aider les communautés?
On est confiant que ce sont des fonds réel et que ça va vraiment avoir un impact réel sur le sol. Mais il est important de se souvenir aussi, il y a plusieurs autres mesures qu'on a prises pour aider les pays qui sont impactés par le changement climatique. Il y a par exemple notre initiative Feed the Future qui est au cours des deux prochaines années. On a annoncé 100 millions de dollars de financement supplémentaire pour ce programme-là. Il y a aussi un programme très innovatif qui s'appelle La Vision pour des cultures et des sols adaptés, ou VAX, c'est le sigle en anglais. Et ça qui va aider les agricultures, en particulier en Afrique, à s'adapter au changement climatique avec leur culture. Et puis, il y a tout un nouveau programme qui s'appelle PREPAR, Plan d'urgence présidentiel pour l'adaptation à la résilience, PREPAR. Et sous ce programme-là, c'est un partenariat avec le secteur privé. Il y a 31 entreprises qui se sont déjà inscrites pour faire partie de ça. Et ils mènent des ressources financières, aussi technologiques, etc., au problème.
Tout cela s'inscrit sûrement dans votre dynamique, hein, d'enclencher le leadership américain pour une résilience face aux problèmes climatiques à travers le monde, mais particulièrement en Afrique.
Oui, exactement. On pense toujours à l'Afrique au sein de ces discours. Les pays africains, les peuples africains sont parmi les plus impactés par le changement climatique. Il y a aussi malheureusement, l'insécurité alimentaire, il faut faire face à ça.
Merci beaucoup, Johan Schmonsis. Merci infiniment. Et je rappelle que vous êtes directeur du Hub Média Régional pour l'Afrique et porte-parole du département d'État américain.
C'est exactement voilà. Ça. Merci, Gislain.
Merci infiniment.
Un plaisir.
Voilà, Johan Schmonsis était avec Ghislain Koulibaly dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel de l'essentiel. Les membres de la Cour de cassation renforcent leur capacité au centre de formation continue de l'Institut national de formation judiciaire. Objectif, réfléchir sur la loi organique portant sur l'avant-projet de loi du règlement intérieur de la Cour afin de permettre le bon fonctionnement de cette institution. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, de concert avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, le réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora, a organisé mardi dernier ici même à Abidjan une campagne régionale de mobilisation avec pour objectif d'amener la société à donner un carton rouge à toutes les formes de violence basées sur le genre. Enfin, dans l'actualité internationale présidentielle au Sénégal, la justice réintègre l'opposant Ousmane Sonko sur les listes et ouvre la voie à sa candidature. Et c'est la fin de ce jeudi midi sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, l'arrivée de presse avec Jean-Mélène Biti.
Bonjour à tous. Le congrès du PDCI avec le cas Maurice Kakoudji-Kaouyé occupe une bonne place dans cette revue du jour. Sur ce sujet, plusieurs organes sont